Content que vous soyez là aujourd'hui. Je souhaite d'abord la bienvenue à ceux qui sont là d'habitude, ceux qui nous visitent, ceux qui nous reviennent. Je vois Simon qui nous revient de France. Je ne sais pas s'il a changé son accent depuis ce temps-là, mais bienvenue mon frère Simon. Après l'année passée à Bethel, ce que j'ai vu aussi, petite mademoiselle Martin. Oh non, ils ont un mariage, eux autres, au Nouveau-Brunswick, de cette famille-là. Content de voir chacun, d'être là pour célébrer Dieu, l'adorer, il est digne, et pour aussi entendre la parole de Dieu. C'est une autre forme d'adoration. Ce matin, on va être encore dans Éphésiens, peut-être au chapitre 4. Juste vous rappeler, comme je l'ai mentionné, la semaine prochaine, c'est à 10h. C'est le premier dimanche du mois. Par conséquent, on a le repas partage. Alors, venez en apportant quelque chose de plus, quelquefois, pour que ce soit être capable de partager à d'autres. Les annonces, il y en a plein de belles annonces, sont dans votre bulletin. Prenez-en note, c'est pour ça qu'il est fait le bulletin. Et encore une fois, je vais vous dire, des fois, il y a des messages qu'on aimerait recevoir. À chaque bulletin, il y a « à votre service ». Vous remplissez des éléments, de l'information, vous avez un fardeau, vous avez une information, c'est pour vous aussi, ça nous est communiqué. Puis nous, on peut prier, on peut agir sur la base des informations, des connaissances que nous avons. Ce qu'on n'a pas comme connaissance, c'est bien dur à agir ou à prier. Alors servez-vous de ce petit feuillet à la fin pour qu'on puisse être à votre service. On avait les offrandes tantôt et David priait qu'on ait la sagesse, qu'on compte sur Dieu. De bien agir. Je pensais aux finances, au monde financier de ces derniers mois où les gens ont investi beaucoup à travers les années dans le but de recevoir un retour. Plusieurs épargnants, puis je suis sûr que vous faites partie de ces épargnants-là qui ont été dans l'incertitude, peut-être qu'ils le sont encore à cause des déboires financiers de la dernière année des banques, des caisses de dépôt, des caisses de retraite, des maisons de placement, alors que beaucoup de gens ont encaissé, si je peux dire, des déficits sans précédent, puis au détriment des investisseurs. Il y a beaucoup d'épargnants qui avaient investi dans le but de pouvoir recevoir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, il me semble que j'ai investi dans mes REER dans le but que ça revienne à un moment donné, qu'il en revienne plus. Mais quand il disait cette année qu'il y en avait 20% de moins que ce qu'il y avait l'année passée, ça clique mal, ça fait mal en quelque part. Beaucoup d'épargnants avaient investi dans le but de recevoir en retour une possibilité d'une pension acceptable. Mais ils ont été floués par la témérité, par l'insouciance de ceux à qui on avait fait confiance avec leurs épargnes. Et on dit qu'à TV, beaucoup de gens se sentent, qui sentent que c'est injuste. J'ai un petit peu ce sentiment-là dans mon cœur aussi. Je ne sais pas comment c'est pour vous autres, mais il y a un sentiment d'injustice. On trouve ça un peu injuste d'avoir investi puis de ne pas avoir de retour. Avez-vous déjà mis un 2$ dans une machine distributrice puis qu'elle vous a pas donné le May West que vous avez pesé sur le bouton? Comment vous vous êtes senti face à ça? Hein? Vous avez investi? Ils sont faites solides, on me dit, les machines distributrices. Pas parce que c'est très lourd qu'est-ce qu'il y a dedans, mais des fois par les coups qu'ils mangent quand ils livrent pas la marchandise prévue. Savez-vous quoi? Dieu a beaucoup investi en chacun de vous. Et quelquefois, il est bon de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec la confiance, avec l'investissement que Dieu a placé en nous? On a commencé à regarder Éphésiens dans les trois premiers chapitres. Et dans ces trois premiers chapitres, on a été enseigné sur toutes les bénédictions spirituelles de Dieu. Que Dieu a déversé sur nous, tout l'investissement qu'il a fait pour nous. Et je prie que vous vous réjouissez avec moi de ces bénédictions-là. Dieu nous a sauvés de l'enfer. Jouissez-vous de cette bénédiction-là? De ne pas avoir cette crainte éternelle. Dieu nous a sauvés de l'enfer. Non seulement il nous a sauvés de l'enfer, puis là, il ne veut plus rien savoir de nous autres parce qu'il en a assez investi dans nous. La Bible dit qu'il nous a réconciliés, il nous a ramenés en paix avec lui par le sang de la croix de Jésus. Et ça, c'est tout un investissement. On a maintenant accès auprès de Dieu. Dieu est mon Père. Je peux avoir une communion avec lui à cause de l'investissement de la croix. Non seulement ça, on a vu que Dieu nous a incorporés dans un nouveau corps, l'homme nouveau, l'Église. Il ne vous a pas laissé tout seul, il ne m'a pas laissé tout seul. Il m'a incorporé dans une communauté qui partage le même esprit, la même parole, la même espérance. Il nous a incorporés à l'Église. Et ça l'a uni dans la paix des gens de toute classe, de toute culture. Non seulement Dieu nous a incorporés à l'Église, mais la Bible a dit que Dieu a puissamment fortifié l'Église par la présence de l'Esprit de Dieu dans chacun de nous. C'est quelque chose. Dieu est venu habiter en nous. Quel investissement il a fait? Non seulement on a vu récemment dans Éphésiens chapitre 3, les derniers versets de chapitre 3, il nous a dit que cet investissement-là, cette force qu'il nous avait placée en nous par l'Esprit, c'était de manière à ce que nous puissions expérimenter toutes les dimensions de l'amour de Dieu. Dieu a investi son Esprit en nous afin que je goûte le Seigneur, que j'expérimente la grandeur de son amour, la hauteur de son amour, la profondeur de son amour, que je puisse expérimenter toutes les dimensions de l'amour de Christ. Et finalement, le texte d'Éphésiens 3 nous disait, « Afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. » Êtes-vous content de ça? Êtes-vous content que Dieu a tellement investi en vous? Sauvé, réconcilié, incorporé à l'Église, habité de l'Esprit, goûter la personne de Jésus, être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mais pourquoi Dieu a-t-il investi tant dans nos vies? On tourne dans Éphésiens chapitre 4 ce matin. Et Paul va nous ramener sur terre. En passant des bénédictions célestes du peuple de Dieu à des exhortations qui vont être bien à terre pour ceux qui portent le nom de chrétien. Paul va nous mentionner que notre identité en Christ, notre position en Christ, l'investissement que nous avons reçu en Christ est la base de notre engagement pour lui. Il forme la base de notre appel. Il forme la base de notre conduite en Christ. Voyez-vous, dans les trois premiers chapitres, Paul nous a mentionné la position que nous avions en Christ. Et maintenant, à partir du chapitre 4, il va nous mentionner la marche de Christ à travers nous. Notre marche en lui. Et plus précisément, sa vie à travers nous. Comme enfants de Dieu maintenant, on est appelé à marcher, le texte va nous dire, de manière digne de ce que nous sommes en Christ. On est appelé à vivre pleinement en conformité avec ce que nous sommes devenus en Christ. J'imagine qu'on s'attend à des fils de dignitaires de se conduire dignement en relation avec la position, avec ce qu'ils sont. Normal. On raconte l'histoire d'un des fils de Napoléon Bonaparte. Vous savez, Napoléon Bonaparte, le grand conquérant français, il y a eu plusieurs fils. Je ne sais pas s'il y a eu juste une femme, par exemple. En tout cas, il y avait de nombreux fils. Et un d'entre eux avait une très mauvaise conduite. Il faisait ombrage à Napoléon. Et on le mentionnait à Napoléon, à tout bout de champ, ce fils-là, c'est vraiment pas correct. Alors Napoléon, il a été voir ce fils-là. Il l'a confronté. Il a dit, « Change de conduite ou change de nom. » Bonne exhortation. « Tu portes mon nom. Vis comme ça. Ou bien change de nom. » Vous portez le nom de chrétien. Dieu a investi pleinement en vous. Il est normal que le Seigneur s'attende maintenant que notre conduite reflète ce que nous sommes, tout ce que Dieu a fait pour nous. Tournez dans Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 16. Et dans ces 16 versets-là, Paul va identifier trois appels trois appels fondamentaux qui vont former la base de notre devoir de gratitude. Les impératifs sont pas sans. Les impératifs de la vie chrétienne ne sont pas sans avoir reçu déjà le potentiel des accomplir par la présence de Christ en nous. Et Paul va nous présenter trois appels qui vont être la base de notre devoir de gratitude, qui vont former les piliers de notre conduite chrétienne. Et mon désir ce matin, ma prière ce matin, c'est que chacun d'entre nous, on puisse entendre avec nos cœurs ces appels-là et dire un peu comme on a chanté tantôt, « Je viens, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Manifeste ta présence. Manifeste ta personne à travers ma vie. » Vous avez trouvé, hein, Éphésiens 4, 1? On va prier d'abord, puis on va lire le texte. Seigneur notre Dieu, encore une fois, merci pour ta parole. Merci pour les encouragements qu'on va y trouver ce matin. Merci pour l'investissement que tu as fait dans nos vies. Seigneur mon Dieu, je te prie qu'en retour, nous puissions nous conduire de manière digne. Digne de cet appel, digne de cette vocation. Afin, Seigneur, qu'on puisse vivre comme on va le voir tantôt, dans l'unité, dans le service, vers la maturité. Et nous te prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Éphésiens chapitre 4. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. On a lu un texte qui est assez long et des phrases qui sont assez longues, qui sont remplies de belles images, de beaux sujets et on pourrait prendre énormément de temps à décortiquer. C'est un texte qui est riche. J'aimerais être très simple ce matin dans Éphésiens chapitre 4, ces 16 versets-là, et en réalité retirer trois appels fondamentaux. D'ailleurs, le premier appel, je l'ai enseigné dimanche soir, le 3 mai dernier, ici à l'église, alors on va encore passer vite. Mais Dieu, Paul nous invite à répondre à trois appels. Et premièrement, son premier appel, c'est de conserver l'unité de l'esprit. C'est un appel à l'unité. Parce que Dieu a tellement investi en nous, parce qu'il nous a mis ensemble, il nous appelle à l'unité. Il veut que chaque croyant s'efforce, fasse tous ses efforts pour maintenir une unité qui est déjà présente. Paul, il ne nous dit pas de créer l'unité. L'unité, nous l'avons dans le Saint-Esprit. Mais il nous dit qu'on doit faire tous nos efforts pour maintenir cette unité qui existe déjà. Et comment on fait ces efforts-là? Bien, il va nous parler qu'il va falloir conjuguer des êtres, des avoirs. Savoir conjuguer avoir et être. Il me semble que j'ai vu ça sur des grands panneaux à un moment donné. Mais il va dire, voici ce que on a besoin de conjuguer pour nous appeler à l'unité. D'abord, conjuguer des valeurs morales qui doivent nous distinguer. Chaque personne, de façon personnelle, doit être caractérisée par l'humilité. En toute humilité. Et dans ses relations avec les autres, il doit être caractérisé par la douceur, par la patience, par le soutien mutuel, par l'amour, par la paix. On doit s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit à travers ce que nous sommes, à travers nos valeurs morales. Et on doit conserver l'unité de l'esprit aussi à travers des vérités fondamentales. Qu'est-ce qui nous unit en tant que croyants, en tant que corps de Christ? Et là, il va mentionner 7 vérités fondamentales. Il dit qu'on est, un corps, qui est l'Église. Il y a un seul esprit, le Saint-Esprit. Il y a une seule espérance, le fait que Jésus-Christ revienne et que nous puissions prendre pleine possession de la vie éternelle et de la communion parfaite avec le Père. Il nous dit qu'il y a un seul Seigneur, évidemment le Seigneur Jésus-Christ, qu'il y a une seule foi, la vérité de l'Évangile, l'Évangile qui nous sauve, l'Évangile qui nous sanctifie. Il nous dit qu'il y a un seul baptême, le baptême de l'Esprit, qui nous incorpore dans le corps de Christ et qui est illustré dans le baptême d'eau. Et finalement, il nous dit qu'il y a un seul Dieu. Ce Dieu est Père, un Créateur glorieux, souverain sur nos vies comme sur l'univers. Qu'est-ce qui nous unit? Il faut nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit à travers des valeurs morales et à travers des vérités fondamentales. C'est ce qu'on avait enseigné en début mai, puis on va rapidement passer par là. Un deuxième appel que l'on trouve à partir du verset 7. Il nous est dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Non seulement Dieu nous a unis et nous appelle à l'unité, et nous appelle maintenant à servir. Parce que chacun de nous, à chacun de nous, Dieu a fait un don personnel. Dieu appelle chaque croyant à former un corps. Et comme un corps a différents membres, différentes fonctions, ils ont différentes qualités, différents rôles, Dieu, lorsqu'il vous a incorporé chacun d'entre vous dans l'Église, il vous a équipé particulièrement de dons et vous a fait cadeau de dons particuliers. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, selon la grâce de Dieu, selon le don de Christ. Chaque croyant a reçu un don spirituel et ce don spirituel-là, il est pour le bénéfice du royaume de Dieu, pas pour son bénéfice personnel. La Bible parle de divers dons spirituels. On pourrait tourner dans 1 Corinthiens 12, il y a une liste de dons là. On pourrait tourner dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8, il y a une autre liste de dons là. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il y a encore une liste de dons. Ce n'est pas de savoir toute la liste des dons, mais de savoir, d'après le verset 7, chacun de nous, selon la grâce qui nous a été donnée, dans la mesure de Christ, on a reçu un don. Savez-vous ça? Dieu vous a personnellement et particulièrement équipé pour exercer un ministère, une activité, une œuvre dans son Église, dans son corps. 1 Corinthiens 12 dit, « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et il nous dit, « Pourquoi il a fait ça? » Pourquoi Christ nous a donné des dons comme ça? Il nous a fait cadeau de quelque chose. Dieu est souverain, il est riche, il est tout puissant. Il dit au verset 8, c'est pourquoi il est dit. Il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, puis après ça, il a fait des dons aux hommes. Puis là, il explique un peu, il est en train de citer le psaume 68, il explique un peu qu'est-ce qu'il a fait. Jésus-Christ est venu sur la terre, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a vaincu Satan, et en quelque sorte, il les a fait prisonniers. Et là, il était capable, parce que la mort, le péché, Satan est prisonnier, il est capable maintenant de donner librement à chaque croyant des dons de grâce. Voyez-vous, c'est l'image de conquérant. Dans les temps anciens où le conquérant allait dans le pays opposé, il faisait des captifs, il avait la victoire, il ramassait le butin, il ramassait tout, il revenait chez lui, puis quand il revenait chez lui, bien là, il faisait des dons généreux à tous ceux de son peuple. Christ a vaincu Satan, le péché, la mort. Il est monté au ciel. Et maintenant, il est riche, il donne des cadeaux personnels à tous ses enfants.